Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous allons parler ce soir de l'état de siège instauré dans deux provinces de l'est de la RDC pour tenter de combattre les groupes armés qui y opèrent. Et c'est avec trois invités, Muindo Kaliamou Guma Steward. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de communication pour le Credo. C'est le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme à Goma. Et vous êtes également militant de la Lucha. Nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-Claude Chilumbayi, qui est avocat, professeur d'université et rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, c'est le parti au pouvoir RDC. De même que Dr Charles Odiko, qui est enseignant-chercheur à UNIKIN, c'est l'université de Kinshasa. Ces deux derniers invités ne nous ont pas encore rejoints. On espère évidemment les avoir dans quelques instants. Je vais donc commencer par vous, Monsieur Muindo de la Lucha. Vous êtes à Goma. Depuis bientôt un mois donc, ce sont les autorités militaires qui sont en place dans la ville. Quels sont les changements que vous avez observés et qu'il faut mettre à l'actif de cette mesure instaurée le 6 mai dernier?
Alors, oui, merci beaucoup encore pour l'invitation et pour la parole accordée. Alors, depuis le 6 mai, comme vous l'avez dit, la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri, les deux provinces sont en état de siège. Et l'état de siège a été décrété pour pacifier ces deux provinces qui, depuis deux décennies, connaissent de conflits armés. Alors, quels sont les changements qui ont été impulsés grâce à cet état de siège et grâce à la mise à la nomination des autorités militaires?
Des gouverneurs militaires.
Des gouverneurs militaires, évidemment. Donc, le premier, je crois qu'il y a quand même eu une certaine redynamisation des opérations militaires, que ce soit à Ituri et même au nord Kivu. On a senti, en fait, par exemple, dans le territoire de Masisi et dans le territoire de Beni, que les opérations militaires ont été encore un peu ravivées, mais aussi dans la province de l'Ituri, notamment à territoire de Rumu et à territoire de Djougou. On a aussi vu qu'il y a certaines milices qui ont carrément déposé les armes. C'est le cas, par exemple, du collectif des mouvements pour le changement Nyatura, qui est actif dans les territoires de Masisi et de Rutshuru en province du Nord Kivu. L'armée a aussi communiqué sur le bilan de ces attaques qui ont fait des morts dans les cas des ennemis. Donc c'est quand même des changements, des changements qui ont pu être observés avec cet état de siège. Mais évidemment, lorsqu'on le contrebalance avec la situation sécuritaire sur terrain, on comprend en fait que malheureusement, elle ne s'est pas améliorée parce que les attaques se sont poursuivies.
Effectivement, nous allons en parler dans un instant et j'espère que nos deux autres invités sont bien là. Est-ce que le docteur Charles Odiko me fait ton signe? Pas encore, de même que Jean-Claude Chilumbayi, que nous allons avoir au cours de cette émission. Je vais donc rester avec vous, M. Muindo. Vous disiez que, oui, il y a eu des changements notables qui ont été observés. Et l'armée a aussi indiqué qu'elle a pu empêcher des recrutements de jeunes combattants par des miliciens, des ADF.
Exact. Et c'est là à Beni. Donc, on a en fait senti qu'il y a quand même eu cette relance des opérations, cet intérêt encore pour la question et cette mobilisation nationale autour de la lutte contre l'insécurité à l'est du pays.
D'accord.
Donc c'est quand même des éléments importants qui faisaient largement défaut au début et qui ont pu être stimulés par la déclaration de l'état de siège.
Et qu'en est-il de la coopération des populations de ces deux provinces? Mais c'est vrai que vous êtes à Goma. Dites-nous un peu comment s'est passée la collaboration avec les populations. Est-ce qu'elles ont adhéré à cette lutte en soutenant les forces de sécurité, peut-être à travers des renseignements?
Oui, en fait, parce que les populations sont fatiguées des conflits armés. Donc, toutes les initiatives qui concourent au rétablissement de la paix et de la sécurité sont les bienvenues. Elles sont toujours soutenues par la population. Donc, elles ont accueilli avec beaucoup d'espoir l'état de siège. Mais malheureusement, et on va le voir au cours de l'émission, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme commis par des éléments de la
police.
Oui,
parlons-en pendant qu'on y est. C'était également la question que je voulais vous poser, parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes exprimées par des organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, y compris aussi l'UTIA, sur de possibles violations des droits de l'homme pendant cet état de siège. Et qu'en est-il? Qu'est-ce que vous avez observé jusque-là?
Oui, évidemment, la situation a montré que ces inquiétudes étaient vraiment fondées parce que les violations des droits de l'homme, en tout cas les violations des droits de l'homme qui sont commises sous prétexte de l'état de siège ont été encore plus nombreuses. Et on a aussi vu, par exemple...
C'est-à-dire qu'elles étaient plus nombreuses qu'avant l'instauration de l'état de siège le 6 mai dernier?
Exact. Donc, on a senti qu'il y a un peu plus de violations de l'état de siège, y compris qui sont commises par prétexte de l'état de siège. Donc, si je peux donner un exemple, bon, vous venez auprès d'un agent de la police, il vous arrête pour un motif, pour une raison non infractionnelle, et après, il vous dit, ben, on est à période d'état de siège. Et les cas comme ça ont été rapportés plusieurs fois auprès de notre organisation, que ce soit en Nord-Kivu, mais aussi à Ituri. On a aussi vu pendant l'état de siège que l'appareil judiciaire était totalement bloqué. Donc, en décrétant l'état de siège, il a été décidé que c'était désormais les juridictions militaires qui devraient siéger pour les affaires civiles, les affaires engagées civiles, alors que les juridictions militaires ne l'ont pas fait, mais aussi elles ne sont pas suffisamment déployées sur le territoire sur les deux provinces pour assurer la relève. Alors, il y a eu beaucoup les Congolais, les citoyens qui avaient besoin de porter plainte n'avaient pas porté plainte.
Merci. Ceux
qui sont à détention ont vu leur procès ne pas être poursuivi. Donc, c'était, bref, une situation qui légitimait un peu les violations des droits de l'homme.
Merci beaucoup, Monsieur Mouindo. Et nous avons à présent Jean-Claude Tshilumbai. Bonsoir, Monsieur Tshilumbai. Maître Tshilumbai, vous êtes là?
Je suis là, madame.
Oui, avocat et donc professeur d'université et rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti au pouvoir, RDC. Nous avons écouté longuement M. Mouindo qui se réjouissait de la redynamisation des opérations de l'armée dans ces provinces où l'état de siège a été instauré. Il a parlé aussi des milices, certaines milices qui ont déposé les armes. Mais il a regretté qu'il y a eu une augmentation aussi des violations des droits de l'homme pendant l'état de siège jusque-là en vigueur. Quel est votre commentaire sur ce qui a été fait jusqu'à présent par les autorités militaires?
Non, nous n'avons pas jusqu'à présent des échos sur des violations graves, comme vous les qualifiez, des droits de l'homme. Ce qui est sûr et constitutionnel dans notre pays, d'ailleurs, universel, c'est que lorsque l'état de siège est décrété, il y a nécessairement réduction de certains droits, de certaines jouissances en termes de liberté, mais pas fondamentale. Notre question, d'ailleurs, à son article 75, il y a des libertés qui sont intangibles parce que celle-là, la constitution les protège, même en période d'état de siège. Mais il y a des libertés de manière consensuelle. Parce que d'avoir adopté cette constitution, nous avons ensemble renoncé en disant que si l'état de siège est décrété, on peut y renoncer. Par exemple, le principe que nous ne tournons personne de son lieu naturel, situé par notre constitution, c'est un principe auquel nous avons renoncé parce qu'en période d'état de siège, les juridictions militaires supplantent les juridictions civiles, le parquet militaire supplante le parquet civil. Il est normal que les infractions commises en cette période soient déférées devant le parquet militaire. Ça ne fonctionne pas en tant que tel.
Allô, Maître Tshilumbay, je suis navré de vous interrompre. La liaison est très, très difficile avec Kinshasa. On n'entend presque pas ce que vous dites et je pense que c'est assez laborieux pour nos auditeurs. Donc, je propose qu'on marque une courte pause et puis on reviendra évidemment dans la suite de ce débat et vous donner la parole.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission, ce soir, nous faisons le point sur l'état de siège instauré le 6 mai dernier dans deux provinces de l'est de la RDC et pour un mois pour tenter de venir à bout des groupes armés qui multiplient les attaques dans ces provinces de la RDC. Et nous en parlons avec Jean-Claude Tshilumbay, qui est avocat et rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti au pouvoir, Muindo Kalyamu Guma Steward, chargé de communication pour le Credo et également militant de la Lucha. Et nous avons maintenant Dr Charles Odiko. Bonsoir, Monsieur Odiko. Allô, Monsieur Odiko? Enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa. Il devrait normalement nous entendre. Docteur Edico, vous m'entendez? Manifestement pas pour le moment. Alors, Monsieur Muindo, je reviens à vous, le temps qu'on essaie également de rappeler Maître Tshilumbay, avec lequel la liaison n'était pas tout à fait dans les bonnes conditions à Kinshasa. Il y a quand même eu des attaques, Monsieur Muindo, on en parlait en début d'émission, 12 personnes qui ont été tuées par des miliciens Codeco à Djougou, ça c'était dans la nuit du mardi 1er juillet, mais avant il y a eu une autre attaque, celle-là beaucoup plus meurtrière, 57 personnes, c'était dans la nuit de dimanche dans les villages de Boga et Tshabi. Cela veut dire que, oui, il y a eu peut-être des efforts qui ont été faits au niveau des opérations menées jusque-là par les FRDC, mais on constate que les attaques persistent, elles ne faiblissent pas.
Exact, exact. Donc, à part les deux attaques que vous avez mentionnées, il y a également eu beaucoup, en tout cas pas mal d'attaques dans la région de Beni. Pour donner peut-être une image générale de la situation, c'est que du 26 mai au 1er juin, donc pendant juste 6 jours, le Credo a pu documenter 108 personnes tuées à la suite d'attaques armées, que ce soit à Beni ou à Ituri. Donc, bref, ça veut dire que malgré les actions qui ont pu être menées, l'insécurité et les tueries se poursuivent.
Monsieur Muindo, pardonnez-moi, je vous interromps. Quand vous parlez de 108 personnes qui ont été tuées, quand on compare au mois précédent, c'est-à-dire avant l'instauration de l'état de siège, quelle est la progression? Est-ce qu'on peut avoir des données comparatives? C'est-à-dire que 108 personnes tuées sur à peu près combien, disons, au mois d'avril, avant l'instauration de cet état de siège?
Alors, ça, c'est 108 personnes, c'est juste les données, si c'est juste le nombre de personnes tuées pendant 6 jours. Donc, ce n'est même pas pendant un mois, c'est juste pendant 6 jours.
Une semaine.
Oui, une semaine, donc du 26 mai au 1er juin. Et donc,
on n'a pas les chiffres sur un mois et aussi au niveau de nombre d'attaques pour comparer les mois d'avril et le mois de mai.
Nous attendons de notre rapport d'évaluation générale de l'état de siège qui sortira d'ici là, mais de manière générale, il s'avère que les tueries ont été encore plus intenses, plus généralisées pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Déjà avant, il n'avait pas été relevé une attaque qui pouvait faire autant de victimes. 57 personnes en un seul coup, c'était énorme et ce n'était jamais atteint. Donc, ça veut dire que plus ou moins, l'état de siège n'a pas eu un effet positif, n'a pas eu un effet sur la recrudescence d'attaques et la poursuite des tueries. Et cela est dû, en fait, à l'impréparation et à la, et à la mauvaise stratégie qui a présidé à l'instauration de l'État.
On va revenir un peu tout à l'heure peut-être sur les causes, en espérant que ce dialogue entre vous et moi ne se poursuivra pas longtemps et qu'on pourrait bien entendre tout à l'heure nos deux autres invités, docteur Odiko et maître Chilumbay. L'ampleur de l'attaque des villages de Boga et de Tchabi a été telle que le gouverneur militaire s'en est lui-même ému et il a même parlé de tentative d'humiliation de la part de ces groupes armés. Est-ce que vous pensez que cela pourrait peut-être provoquer un sursaut de la part des autorités militaires?
On le souhaite bien. Le problème, c'est que ce genre de propos, de regrets, d'abord qu'on les attendrait moins de la part d'une autorité militaire. On attend plus d'action, pas de discours. C'est d'ailleurs cette raison qui a fait qu'on nomme des gouverneurs militaires qui aient des actions et non pas des discours politiques. Deuxièmement, c'est que c'est quand même un discours qu'on a l'habitude d'attendre. Hein. Donc, même à Beni, par exemple, à novembre 2019, quand les opérations ont été lancées, les autorités militaires ont rassuré que c'est une question de quelques mois, de quelques semaines, et on en finirait. Mais on est là à compter des années sans que ça ne finisse. Donc malheureusement, les autorités tiennent toujours des discours très, très, très optimistes sans poser les bases sur le terrain. Parce que si les rebelles ont pu tuer autant de citoyens, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas, ou en tout cas pas suffisamment, des positions militaires qui sécurisaient les villages. Donc, et malheureusement, on peut toujours tenir de tels discours, mais si on ne s'assure pas qu'il y a une ceinture de sécurité autour des agglomérations fortement habitées, autour des grandes routes, on se retrouvera toujours à compter de morts sans que la situation ne s'améliore. Donc, il y a besoin de plus d'action, de plus de moyens sur le terrain et non vraiment pas de discours.
Merci, Monsieur Mouindo. Et je rappelle que ce soir, hein, nous faisons le point sur la mise en œuvre de l'état de siège qui a été décrété par le président Tshisekedi dans deux provinces de l'est de la RDC, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, pour tenter de lutter contre l'insécurité. Alors qu'on s'achemine vers la fin de ce mois d'état de siège, où en est-on? Je rappelle que l'état de siège devrait, le premier mois donc devrait intervenir dimanche prochain 6 mai. Mais en ce moment même, les députés congolais sont en discussion à l'Assemblée nationale à la demande du gouvernement qui souhaite proroger de 15 jours cet état de siège. Et nous faisons donc le point avec trois invités, Mouindo Steward de la Lucha, docteur Charles Odiko, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa, Jean-Claude Chilumbay, avocat, qui est également professeur d'université et rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti au pouvoir en RDC. Et nous l'avons entendu tout à l'heure, mais la liaison n'était pas bonne. Et je sais que Hugo Vallière, qui est à la réalisation, et le chargé de production de l'émission, Edouard Ning, essaye comme ils peuvent, hein, de retrouver nos deux invités pour qu'ils puissent participer à ce débat. Mais en attendant, on va rester avec vous, Monsieur Mouindo, parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix pour l'instant. Je voulais revenir avec vous un peu sur ce que vous avez dit, évoquant l'impréparation, ce sont vos mots, de cette opération, de cet état de siège. Pourquoi dites-vous qu'il y a eu une impréparation et que c'est peut-être cela qui ferait que, malgré l'application de cet état de siège, on assiste à des attaques récurrentes?
Alors, je l'ai dit, évidemment, à cause, c'est déjà visible à travers, par exemple, c'est seulement hier que le ministre de la Défense a dit avoir reçu le fonds pour qui devrait accompagner la mise en œuvre de l'état de siège. Donc, ça veut dire que tout le temps qui passait, il n'y avait aucun budget qui était déjà affecté, alloué aux opérations militaires qui se déroulaient dans la région. Ça montre clairement cette impréparation. Deuxièmement, par exemple, au Nord Kivu, tout, tous les, depuis que l'état de siège a été déclaré, depuis que le gouverneur militaire est en fonction, il ne s'est jamais rendu à Beni. Beni, en fait, c'est le symbole de la violence à l'est de la RDC depuis 2014 jusqu'à présent.
Merci. Je vais vous interrompre, M. Mouindo. Je suis navré. Je vais vous interrompre parce qu'on me fait signe que Maître Tshilombaï est en ligne avec une qualité meilleure. Maître, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends, madame.
Voilà,
j'espère. C'est très difficile. Hein.
Oui, on le sent bien, Maître Tshilombaï. Il y a M. Mouindo Stewart qui a dit une série de choses sur lesquelles on ne peut malheureusement pas toutes revenir pour permettre de répondre point par point. Mais en somme, si je commence par le début, il se félicitait de la redynamisation des opérations qui ont été ravivées avec l'arrivée des gouverneurs militaires, de certains miliciens qui ont déposé les armes. Mais quelle est votre évaluation aujourd'hui de cet état de siège alors qu'on s'achemine vers la fin de celui-ci?
De prime abord, il faut noter que l'état de siège, ça met tout le monde plus ou moins d'accord. Les efforts ont été marquants. Il y a des groupes armés très importants qui ont décidé de se rendre volontairement. Il y en a qui ont été défaits. Des complices de tueurs ont été, entre autres, arrêtés, les autres neutralisés. Et qu'à ce niveau, la satisfaction est plus ou moins à son comble sur ce point-là. Bien évidemment, il y a des ratés qui continuent, entre autres, le fait que des tueries dans certaines poches, le désordre que nous avons vécu pendant toutes ces années ici ont continué. Ça se comprend dans cet état de choses où les bandits, les voyous, les terroristes de tous bords se sentent menacés. Ils mènent des efforts de dernière minute, mais je crois que nos compatriotes de partis affectés du pays sont en train de se rendre à l'évidence compte qu'il y a d'énormes efforts qui sont à ce niveau entrepris. Le chef de l'État a procédé il y a peu à la redynamisation de nos forces armées en Ituri, dans le nord Kivu, ce qui va conforter le moral des troupes qui sont déjà sur place. Quant à la question de...
Ouais. Oui, s'il vous plaît. Malheureusement, je ne peux pas vous donner la même durée que M. Mouindo, mais est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire si l'objectif à cette phase de l'opération assignée à ces autorités militaires, à ces gouverneurs militaires, a été atteint?
Non, les objectifs, on ne peut pas à ce jour dire que les objectifs ont été atteints. Nous sommes en cours. Vous avez appris que le Parlement a été sollicité pour la prorogation et les parallèles constitutionnels de l'état de siège de 15 jours, mais je suis en train de me dire qu'il faut que notre population s'habitue avec cette réalité parce que cet état de siège devrait continuer même après que les groupes armés soient totalement défaits pour que la région soit absolument stabilisée.
Mais est-ce que le fait de demander cette prorogation ne signifie pas que vous avez surestimer les capacités militaires ou bien peut-être la faiblesse ou sous-estimer ces groupes armés?
Non. Par contre, dans la stratégie militaire que nous observons sur le terrain, le gouvernement a plutôt pris soin de surestimer leurs capacités pour davantage donner de l'énergie à notre armée. C'était connu, il fallait s'y attendre parce que lorsqu'on décrète l'état de siège pour les 30 jours, il y a eu une période de déploiement, nécessairement une période de déploiement de la logistique, de préparation morale des troupes qui étaient sur le terrain, mais aussi d'installation des institutions militaires qui correspondent à la mise en place ou à l'effectivité de cet état de siège. Moi, je ne trouve pas cela...
C'est préalable, cette période n'avait pas été prise en compte lors de la décision d'appliquer cet état de siège juste pour un mois? Parce que ça peut rejoindre l'idée de l'impréparation dont parlait M. Mouindo.
Cet état de siège ne pouvait être décrété que pour un mois, c'est ça. L'esprit de notre constitution, bien sûr, avec cette possibilité, qu'on le proroge de jour en jour, c'est tout à fait acceptable. Il faut aussi vous réaliser que pendant qu'on le décrète, il n'y avait pas de gouvernement avec plein pouvoir pour l'assumer.
Merci beaucoup, Monsieur Maître Chilumbay. Je vous propose de revenir dans quelques petits instants pour conclure notre débat sur ce qui peut-être reste à faire et quels réglages peut-être il faudra faire pour obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre l'insécurité dans les deux provinces de l'Est de la RDC.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Nous parlons ce soir de l'état de siège instauré en début du mois, début mai, pardon, par le président Tshisekedi pour lutter contre l'insécurité dans deux provinces de l'Est de la RDC. Et nous en parlons avec Muindo Stewart, chargé de communication pour le Credo et membre de la Lucha Goma, et Jean-Claude Moutilumbay, qui est avocat et professeur d'université, et docteur Charles Odiko, enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa, que nous n'avons pas pu entendre dans les deux premières parties de cette émission, à qui nous allons donner la parole. Malheureusement, nous sommes presque à la fin de l'émission, docteur Odiko. En quelques mots, quelle évaluation vous faites de l'état de siège à ce stade?
Bon, l'état de siège, c'est vrai que, bon, comme nous l'avons dit dès le départ, au jour de pression, aujourd'hui, l'état de siège a semblé produit des effets, mais qui me semblent être des effets sensationnels qui ne peuvent pas nous amener à connaître une situation de paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez même l'attitude des gouverneurs militaires. La situation d'état de siège, état d'urgence, ce sont des situations qui tirent leur philosophie de l'Antiquité. Il y a une philosophie qui conduit l'état de siège. Alors, vous verrez que pendant l'état de siège, les gouverneurs militaires, qui pouvaient même avoir une attitude militaire, se lancent dans une attitude propagandiste comme des politiques. Ce qui fait que
leur reprochez-vous que concrètement, s'il vous plaît?
Concrètement, je crois qu'il n'y a pas assez de concentration parce que l'état d'urgence est une situation limitée dans le temps, l'état de siège plutôt. Une situation limitée dans le temps qui devrait recommander beaucoup plus de concentration dans les chefs de gouverneurs militaires et même des autorités militaires installées sur place.
À quel niveau manquerait-il de concentration les responsables militaires, les gouverneurs militaires?
Non, bon, parce que nous avons vu les gouverneurs militaires se lancer beaucoup plus dans des actions propagandistes et passer à la télé, c'est comme des politiques ordinaires, alors qu'ils sont là pour beaucoup plus des stratégies de terrain. On n'avait même pas besoin de le voir. On avait besoin tout simplement d'avoir des
effets palpables. Donc vous aurez voulu voir de plus d'actes, des
neutralisations.
Les voix s'illustrer par les actes que plutôt par la parole.
Oui.
Allô, docteur Edico? Bon, on ne l'entend plus. Monsieur Muindo, quels sont les réglages qu'il faudrait peut-être faire pour le reste de la durée de l'état de siège? Normalement, la fin interviendra dimanche prochain, 6 juin. Et en ce moment, l'Assemblée nationale est en train de discuter d'une éventuelle prorogation de 15 jours. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'au terme d'un mois et demi, on assiste à des résultats probants?
Alors, quatre propositions pour essayer quand même de redynamiser un peu le temps de siège et s'assurer qu'il atteint des résultats relativement positifs. La première proposition, c'est qu'il faut mettre des moyens financiers, logistiques à la disposition des militaires qui combattent, parce qu'il n'y en a pas. Malheureusement. Deuxièmement, il faut s'assurer que on tamise en fait les troupes qui sont au combat pour s'assurer que tous ceux qui ont été liés aux bandes armées par le passé ne sont pas aux opérations, parce qu'on sait que si les opérations échouent, c'est parce qu'on a des troupes infiltrées et des troupes incapables. Il faut s'assurer que toutes ces troupes qui ont eu des collisions avec le groupe armé dans le passé ne sont pas sur le terrain des opérations. Troisièmement, il faut mettre en place un plan de démobilisation et de réinsertion des miliciens qui rendent les armes. Maintenant, il est possible que des miliciens quittent la brousse, qui rendent les armes, mais qui ne soit pas accompagné, qui ne soit pas pris en charge, il va encore revenir à Bruce et ce sera le même cycle de violence. Quatrièmement, je crois qu'il faut insister sur le respect des droits de l'homme par les nouvelles, les autorités militaires et policières, parce que c'est le respect des droits de l'homme qui crée les conditions nécessaires à la collaboration entre les civils et les militaires, qui est un ingrédient important pour la réussite des opérations militaires. Mais comme le professeur l'a noté, malheureusement, si on continue à porter l'état de siège dans les conditions actuelles, on n'aura que des résultats sensationnels. Et là, je suis d'accord avec vous sur le terme, sur le fait que c'est des résultats sensationnels qui ne sont durables à rien.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mouindo. Non, vous avez suffisamment parlé dans les deux premières parties. Je préfère qu'on termine avec Monsieur Maître Tshilumbaï. Vous aussi, vous admettez quand même qu'il y a eu des dysfonctionnements. Certains parlent d'impréparation, c'est le cas de Monsieur Mouindo. Maintenant aussi, le ministre de la Défense annonce des renforts et que tout l'effectif espéré sera là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les prochains jours pour qu'au final, on assiste à une désorganisation ou plutôt à une neutralisation même de tous ces groupes armés qui continuent malgré tout à sévir, Monsieur Tshilumbaï? Maître Tshilumbaï? Allô, Maître Tshilumbaï? Bon, il ne m'entend pas. Je ne sais pas ce qu'il en est de Monsieur Odiko. Monsieur Odiko, docteur Odiko, vous êtes là?
Allô?
Oui, je ne sais pas finalement, c'est docteur Odiko ou Maître Tshilumbaï?
Nous sommes en ligne.
D'accord. Monsieur Tshilumbaï, en deux mots, malheureusement, le temps est en train de s'égrener. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des choses à faire, d'après vous, pour un meilleur résultat? Allô, Maître Tshilumbaï? Décidément, une émission un peu particulière aujourd'hui. Ils ne nous entendent plus. Pourtant, ils étaient là à l'instant. Je vais peut-être essayer à nouveau. Docteur Odiko, vous m'entendez?
Si, je vous entends.
Oui, allez, vous avez la parole. Et pour 2 minutes 30, s'il vous plaît, vos propositions.
OK. Comme proposition, je pense qu'il est temps que l'armée et toutes les personnalités impliquées dans la situation de l'Est se réorganisent pour imaginer des stratégies adéquates pour neutraliser les ennemis ou encore les adversaires de la République. Cela exige beaucoup plus de discipline dans les chefs de ceux qui commandent, n'est-ce pas, les opérations à l'Est, notamment les gouverneurs et les autorités militaires désignées. Il faut aussi qu'ils retiennent, comme je l'ai dit tantôt, dans le cas de l'état de siège, il y a tout un esprit qui va donc. Ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des gens à la recherche d'un électorat, de quoi ce sont des gens qui n'ont pas de compte à rendre aux gens qui ne sont qu'à la recherche de la paix. Alors si l'armée et toutes les autorités vont se concentrer qu'à la recherche de la paix, c'est pour ça qu'on y arrive. Mais vous savez que tout ce que nous avons eu dans le cadre de l'état de siège, nous l'avons connu dans le cadre de l'opération Sokola 1, Sokola 2. Ce qui fait que c'est vrai que l'état d'urgence ou l'état de siège nous aura permis de jeter les bases d'une paix durable. Mais il faut qu'à l'Est, nous puissions, comme l'a dit M. Mouima, imaginer les troupes, réorganiser l'armée, même après l'état de siège, pour de telle sorte que nous puissions arriver à neutraliser.
Mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi, docteur Odiko, un problème de mauvaise connaissance du terrain? Parce que ces groupes armés, notamment ADF, opèrent depuis des années. Les gouverneurs militaires, eux, viennent en dehors de ces provinces et peut-être ne maîtrisent pas autant le terrain que ces ADF ou ces groupes armés qui ont peut-être de l'avance sur eux.
Oui, effectivement, c'est comme ça que nous avons dit qu'étant donné qu'ils sont en face des gens qui ont la maîtrise de terrain, qui œuvrent là depuis longtemps, eux ne peuvent pas avoir de temps à perdre. Ils doivent être concentrés pour arriver à agir. Parce qu'à défaut d'une concentration, des stratégies plus imaginées, on n'aura rien. C'est comme ça que les préalables pour tout, il faut une étude. Comme ce sont des spécialistes, les spécialistes, à défaut de connaître le terrain, il y a également, à partir de l'information, les stratégies militaires qui permettent même d'agir dans des terrains étrangers.
c'est normal, c'est possible que nous puissions atteindre s'il y a une bonne concentration au sein de l'armée et puis une discipline militaire à Bukavu.
Merci, docteur Charles Odiko, enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa. Merci à maître Jean-Claude Chilombay, avocat et rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti au pouvoir, et à Muindo Stewart, chargé de communication pour le Credo et membre de la LUCHA, lutte pour le changement, à Goma. Et nous nous excusons pour ces incidents techniques qui ont perturbé les liaisons avec nos invités de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.